la jeunesse debout la nuit. Il a filmé leurs rêves et leurs dépits entre les attentats de Charlie Hebdo et l'élection d'Emmanuel Macron. 2 ans, une caméra baladeuse dans la rue. Le réalisateur Mathieu Barrère et l'auteur Marion Siffer sont nos invités à partir de 12h55 pour leur film documentaire L'Époque qui sort en salle aujourd'hui. Mais d'abord, à la recherche des datas perdues, avec nous ce midi l'auteur de bande dessinée Enki Bilal. Il publie aujourd'hui le livre 2 de Bug chez Casterman, une plongée dans le monde numérique à peine de demain, déjà d'aujourd'hui. Et si, Enki Bilal est avec nous jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Jesbert.
2041, impossible de se connecter, Internet ne marche plus et s'est vidé de tous ses contenus. Et si, après avoir colonisé nos vies, Internet disparaissait? Bonjour Enki Bilal.
Bonjour.
Retour pour une deuxième saison de votre héros Cameron Hobb. Il est l'homme hybride qui abrite toute la mémoire du monde et donc l'homme le plus convoité, seul rescapé d'une expédition sur Mars. Son corps a absorbé tous les contenus. C'est un dieu tout puissant, ses pouvoirs sont sans limite, dites-vous dans ce roman graphique. En fait, ce dieu existe déjà, non ? Mais il n'a pas forme humaine pour l'instant. Il s'appelle la toile.
Oui, on peut craindre que ce dieu soit un peu dictatorial sur les bords, mais c'est vrai que la question de la disparition de cette table rase que ça provoque est une question qui, je dis pas qu'elle va nous obséder, mais on est dans une addiction telle que on se confie énormément et on se s'appauvrit aussi énormément en confiant tout à cette machinerie. L'internet, la mémoire est impactée. Moi, je considère que c'est l'un des dangers. C'est de déficit de transmission quand même qui nous marque en ce moment. Ça va être une période sur une génération. Après, ça va vraisemblablement se s'équilibrer. Mais là, il y a, parce qu'on est face à quelque chose qui est fascinant et qui nous rend addict finalement. On est sous perfusion permanente. En plus, on nous propose régulièrement des remises à jour avec du matériel toujours plus sophistiqué et on suit.
Hobb, votre héros, a un cerveau occupé par une sorte de magma numérique. On pense un peu à la Lucie de Luc Besson incarnée par Scarlett Johansson, dévorée elle aussi à la fois par la drogue mais aussi par cette surcapacité, surpuissance qu'elle a en un corps. Toute la mémoire du monde est réunie dans ce personnage qu'est Hobb, lui-même en proie à un autre bug dans un autre sens que vous employez, Enki Bilal, celui de virus, celui de petite bête. Comment ce virus dévore-t-il son organisme ?
Pour l'instant, les choses se mettent en place. Les deux premiers volumes sont là pour faire une mise en place. C'est pour ça que la décision s'impose d'elle-même. Je vais en faire 5 au moins. De livres sur cette thématique.
5 à raison de 1 par an.
Je pense pas pouvoir tenir forcément un par an, c'est compliqué parce que j'ai d'autres projets, mais je vais essayer de faire ça en flux tendu comme ça pour ce qui n'est pas encore clair pour le lecteur, c'est que ce petit bug, cette bestiole qui est en lui, qui est minuscule, qui est un alien en fin de compte, c'est un véritable disque dur. C'est ça, c'est cette bestiole-là qui a toute la mémoire du monde. C'est pas Hobb lui-même. Voilà. Donc c'est ça, une espèce de, il est occupé par un corps extraterrestre minuscule, mais qui a des pouvoirs énormes, dont on saura évidemment à la fin le pourquoi, le comment.
Vous la connaissez, vous, la fin?
Je la connais, bien sûr.
Vous allez nous la donner ou
Bien sûr.
Oui. Mais à la fin de l'émission.
Bien sûr.
Donc il faut rester jusqu'à midi.
Voilà.
Parce que rester
à la fin de la 5e émission.
De la 5e émission. Oui. Donc rendez-vous dans 5 à 10 ans.
Un peu plus.
Oui. Ah, quelle attente vous allez créer quand même. C'est assez particulier comme rythme à tenir et pour le lecteur et pour l'auteur, non?
Je pense pas pouvoir tenir un épisode ou un livre par an, c'est pas possible. D'autant que j'ai des projets de films, y compris d'ailleurs d'adaptation de Bug, en série télévisée. Mais non, en tout cas, la thématique, elle est tellement vaste, tellement large. La preuve, les deux premiers volumes, c'est une mise en place des personnages principaux. Il y a cette histoire de filiation, comme ça, quelque chose d'extrêmement simple, humain, qui concerne tout le monde. Et puis, il y a le très grand écart qui nous amène effectivement sur Mars et sur cette étrange chose qui a la capacité de contenir toutes les informations du monde.
Mais au fond, pourquoi ce temps long, hein, Kibilal ? Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas vous séparer trop rapidement de vos personnages, de ceux que vous avez imaginés, ou est-ce que c'est au contraire pour laisser aussi le temps au temps, comme qui dirait, et attendre de voir ce qui se passe autour de vous, si ce que vous avez imaginé, prévu, pensé, va évoluer aussi dans le sens indiqué ?
Il y a un petit peu de ça, c'est vrai, mais pour être tout à fait honnête, au départ, Bug, je pensais en faire un one-shot, c'est-à-dire un seul volume, peut-être de 300 ou 400 pages, c'était ça l'idée au départ. Et puis, au bout de 15 pages, je me suis dit, mais c'est monstrueux de gaspiller une thématique pareille d'une seule traite. Voilà, faire ça comme ça, comme même en gros pavé, je trouvais ça assez... Je trouve que c'est suffisamment important et suffisamment, ça englobe suffisamment tout notre avenir et tout notre passé, la mémoire en l'occurrence, pour que ce soit gâché par une sortie simple, brutale, qu'on aurait lu peut-être en 5 heures ou 6 heures, j'en sais rien. Il fallait le temps, effectivement, peut-être de la maturation, y compris pour le lecteur et pour l'auteur. Voilà, c'est ce que vous disiez, c'est que effectivement, j'avance quasiment au feeling sur cette thématique, à part la fin que je connais et qui est une fin qui ne sera absolument pas réaliste et absolument pas cartésienne. Comme ça, j'échappe à toute critique de la part de ceux qui savent, des scientifiques, des geeks. Tout le reste, c'est au fur et à mesure que la société va avancer, et là, elle va avancer très vite sur des tas de plans, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, ça, ce sont des thèmes qui nous occupent réellement. Et ça, c'est réellement le monde numérique. Donc, comment ces choses-là vont bouger? Et comment aussi, sur le plan idéologique, comment l'homme va essayer de se reconstruire les sociétés, les idéologies, que vont-elles devenir, vont-elles revenir ?
Vous dites, c'est ça la question. J'échappe à toute critique, c'est-à-dire que vous y êtes exposé à la critique, vous, l'auteur de bande dessinée, l'auteur de fiction, il y a des scientifiques, des chercheurs qui peuvent critiquer ce que vous écrivez, ce que vous imaginez, même en étant dans le registre de la fiction.
Critiquer, non, mais j'ai employé le terme peut-être un peu de manière un peu brutale, mais il y a toujours des gens qui essaient de comprendre et qui essaient d'être dans le réalisme pur. Là, c'est une fable. D'ailleurs, le simple fait de ne pas traiter de manière réaliste, ça me permet de faire cette fable, parce que si j'avais traité de manière réaliste le bug tel qu'il arrive, ce serait le chaos au bout de 24 heures, 48 heures. C'est la fin du monde quasiment, un truc pareil. Donc c'est le simple fait de faire passer avant la filiation, par exemple, père-fille, de m'occuper des personnages, c'est déjà une façon de dire la catastrophe est terrifiante, mais les hommes s'en sortent.
Le bleu est votre couleur, Enki Bilal, et là, votre héros, Hob, a une tache bleue qui va progresser, évoluer dans ce deuxième volet de Bug qui paraît chez Casterman. Cette tache bleue, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous ?
Alors, dans le cas de Bug, évidemment, on va découvrir au fur et à mesure l'étendue, non pas de la tâche, elle va pas forcément s'étendre, quoique, on peut imaginer que Hob devienne totalement bleu, pourquoi pas, ce serait intéressant. Mais en tout cas, ça aussi, c'est une manifestation de l'intérieur qui vient de ce Bug, cette bestiole. Donc, c'est elle qui prend le contrôle quelque part de l'homme, l'humain qu'est Hob. Le bleu, en tant que couleur, je l'ai déjà utilisé, y compris pour des tâches dans un autre domaine, dans un film en 97-98, mon deuxième film qui s'appelait Tico Moon, et où Michel Piccoli tenait le rôle d'un dictateur qui avait un frère jumeau et ils étaient tous frappés par cette malédiction, de cette maladie de la tache bleue. Dans le cas du film, c'était parfaitement malsain, parfaitement maléfique. C'était effrayant. Dans le cadre de Bug, de l'album, cette couleur bleue va avoir plutôt des airs, je dirais, d'apaisement. Pour l'instant, ça peut inquiéter, mais ça sera tout à fait différent.
Elle peut inquiéter parce qu'elle se transmet. Il a contaminé sa partenaire, Julia Perth, dans ce deuxième volet, et on voit que la tâche s'élargit un peu avec le mystère de ce à quoi elle correspond. On a dit qu'il y a cette idée de Bluetooth, c'est-à-dire cette possibilité aussi dans le bleu de communiquer entre eux. Notre dépendance aux nouvelles technologies, pour vous, aujourd'hui, qui est au cœur de ce nouveau volet de Bug, Enki Bilal, est-ce que c'est une servitude volontaire ?
Oui, je pense qu'on est fasciné par l'outil. Il est magnifique, cet outil est superbe, donc on peut pas le nier, et on peut pas refuser. Je veux dire, c'est difficile de refuser un tel progrès. Donc, il y a une part de soumission. On se soumet quelque part, et on est excité par l'idée aussi de faire partie d'une aventure, de découvrir un nouveau monde, d'avoir accès à de plus en plus de facilités, d'accès à des choses qui nous paraissaient inaccessibles. C'est pour ça que je parle de transmission. C'est là que c'est un peu légèrement problématique, c'est que cette obsession du numérique nous prend énormément de notre cerveau. Et quelque part, le cerveau est un muscle qui a besoin de travailler, et je pense qu'on le fait travailler beaucoup moins sans s'en rendre compte. Il s'éparpille davantage, et on engrange de manière tout à fait virtuelle des tas d'informations que d'habitude on aurait intégrées, réfléchies, mûries, éventuellement discutées. Là, la discussion, tout ça, je veux dire, même quand on voit les débats aujourd'hui, ce sont des débats qui manquent de nuances. La nuance est interdite. Il faut très vite se positionner. Voilà.
Et on cède aux nouvelles technologies, c'est une fonction vitale. C'est ce qu'on voit aussi dans la bande dessinée, avec le jour où tout s'arrête, des cœurs qui s'arrêtent aussi de battre, et pas seulement. La tabula rasa, vous l'avez évoqué, repartir à zéro, vous y voyez peut-être une chance, celle d'une société qui se réorganiserait de manière humaniste. On peut lire dans la bande dessinée une mise à plat radicale de toute notre culture politique, financière, sociale, est en marche. Alors est-elle vraiment en marche ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est peut-être le moment aujourd'hui de réfléchir à la politisation des enjeux du numérique, c'est-à-dire de ne pas faire du numérique une simple question technique et technologique. C'est ce que disait notamment dans Les Matins, il y a 2 ans, Benoît Thiolin du collectif NetSquad.
Vous savez, il y a des luttes contradictoires en fait au sein du monde numérique, et il y a rien de pire que d'imaginer qu'il y a un monde numérique, d'ailleurs venu de la Silicon Valley, qui s'imposerait au monde entier. En réalité, il y a depuis l'origine une promesse d'empowerment, d'empouvoirment d'ailleurs des pères fondateurs d'Internet, et il y a des phénomènes de ressac. Et effectivement, depuis quelque temps, on est dans ce qu'on appelle une forme de reverticalisation du web, c'est-à-dire une concentration finalement sur un certain nombre de grandes plateformes plutôt propriétaires. Bon, moi je crois que ça montre une chose extrêmement importante, c'est que on doit en réalité politiser les enjeux numériques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mondes numériques possibles en réalité, et aujourd'hui il y a des luttes, il y a des forces contradictoires. Et effectivement, moi je pense que le potentiel de transformation du monde par le numérique est quelque chose d'absolument gigantesque. Je pense que ça dessine les contours du monde de demain. Mais il faut voir aussi que il y a un certain nombre d'institutions, d'acteurs ou autres qui vont dans le sens inverse.
Voilà, en lisant Bug, on a le sentiment de vivre déjà aussi un peu dans une théocratie numérique, Enki Bilal, où Internet, comme Dieu, est partout, c'est tout. Et vous jouez d'ailleurs un peu de la comparaison dès le tome 1 avec le personnage du calife de Gibraltar, comme contre Hobbes, qui est une sorte, lui, de dieu numérique. On voit cette confrontation entre les deux personnages et le sentiment d'une nouvelle religion numérique qui serait en train de s'établir. Mais sur cette possibilité de rebond, vous y croyez ?
Il y a une part d'utopie là-dedans, mais c'est amusant de jouer avec ces concepts. On peut penser, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris volontairement, plutôt que d'essayer d'inventer une idéologie, je suis revenu sur les idéologies, notamment du XXe siècle, dont l'une des plus fascinantes et en même temps une des plus terribles, c'est le communisme, donc qui a failli. Donc un échec total du communisme au XXe siècle, et il se trouve qu'il y a un groupe de femmes, alors ça c'est très intéressant aussi, qui décide de revisiter Marx et peut-être de faire renaître le marxisme avec le pari de réussir. Voilà. L'utopie est là, sans doute, mais en tout cas c'est intéressant de poser ça sur la table, et c'est ce que je fais, je veux dire, je l'ai posé à la fin de l'album 2, en ne sachant pas encore exactement comment je vais l'utiliser dans l'album numéro 3. Voilà. Mais c'est ça le principe de cette série, de fonctionner, je dirais presque au coup par coup, en réfléchissant évidemment à l'avance sur les conséquences narratives. Mais en tout cas, voilà, j'avance comme ça. Et c'est pour ça que la durée est nécessaire aussi pour cette série.
La fin de la préhistoire de l'humanité, est-ce qu'on est dans ce moment-là? Est-ce que vous êtes, vous, Henk Bilal, le dernier des marxistes?
Je vais voir justement, c'est ça la question. Je vais voir ce que je vais en faire de ce marxisme. Est-ce que je vais me prendre au jeu? Est-ce que je vais dire oui, c'est jouable? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'au retour c'est le recommencement, hein. Je pense que le marxisme va revenir d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît impossible que ça ne soit pas le cas à un moment donné, puisque l'humanisme, au départ, c'est un tout petit peu dans le marxisme aussi.
Mais comment vous le qualifiez, ce moment dans lequel nous sommes? Parce que vous dites aussi aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Ouais. On est déjà aujourd'hui dans ce temps-là. On est entre progrès et régression.
Oui. C'est ça, mais on vient de se prendre de plein fouet cette révolution. Voilà, des révolutions avant, elles duraient plus longtemps, elles mettaient du temps à s'installer. Je sais pas, la révolution de l'imprimerie, ça mettait du temps. La révolution industrielle, ça mettait aussi du temps. Là, le temps est accéléré d'emblée. C'est-à-dire que ça va très très vite et tout le monde est obligé de se mettre au diapason. Tout le monde est obligé d'emprunter cette voie au risque d'être mis sur le côté. Donc c'est une question de temporalité. Ça va très vite, trop vite. C'est immense, c'est énorme. Et donc il y a une forme de désarroi que l'on masque peut-être par une addiction. L'addiction devient comme une justification de ce progrès. Et c'est là que c'est un petit peu, voilà, on est dans cette période qui est pour moi un peu délicate. Hein.
Vous avez, Henk Bilal, gagné le statut d'auteur visionnaire après la tétralogie du monstre sur l'obscurantisme religieux, après la trilogie Le coup de sang, une fiction environnementale où vous montriez dans les grandes lignes la Terre se rebeller contre la main de l'homme et ce qu'elle lui avait fait. Et là, quelle ne fut pas ma surprise en lisant Bug, le volet 2, page 28, quand on trouve un dessin de Paris, avec Notre-Dame de Paris, où il n'y a pas la flèche de Viollet-le-Duc.
C'est terrible, parce que je viens de l'apprendre, c'est vous qui me l'apprenez, donc j'ai effectivement regardé, il n'y est pas, effectivement.
L'avez oublié?
Ah ben c'est un oubli. Je suis pas visionnaire dans ce sens-là et ça me paraît impossible.
Vous l'êtes malgré vous.
Malgré moi, mais alors là, c'est très bizarre comme remarque et c'est même fascinant. Faut dire qu'à côté de Notre-Dame,
il y a une mosquée.
Même sans flèche, il y a une mosquée. Voilà. C'est une cohabitation parfaitement. Je ne commente pas. C'est une image qui dit simplement, on est en 2040 et Notre-Dame a gagné une consoeur, a gagné un partenaire sur l'île de la Cité. C'est une mosquée. Moi, j'ai beaucoup parlé d'obscurantisme, j'ai beaucoup parlé de religion dans mes précédents travaux, vous l'avez évoqué. Donc là, pour l'instant, je pense que la religion va ressurgir dans le troisième volet, forcément. Parce que quand la table rase, elle va forcément, c'est un lit pour tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est spirituel, y compris dans l'excès. Donc je pense que le religieux va revenir.
Notre-Dame en flamme avant-hier soir.
C'est terrible. C'est terrible. J'étais en plus, j'ai pu voir, filmer. C'est saisissant. Alors moi, je ne suis pas croyant, mais j'ai un très grand respect pour les lieux de culte et je traverse régulièrement Saint-Eustache. Mon atelier est près de Saint-Eustache, l'église de Saint-Eustache. C'est des lieux qui sont des lieux de l'humain, quoi. C'est la concentration de beaucoup d'espérance, la foi, même si on l'a pas forcément. C'est parfaitement, c'est d'une grande violence. C'est assez étrange de voir en plus la temporalité par rapport au président qui devait parler ce jour-là. Enfin, c'est un drôle de moment.
Henk Bilal est notre invité jusqu'à midi et demi à l'occasion de l'apparition du volet 2 de sa série de bande dessinée Bug qui paraît chez Casterman.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La révolution est numérique. On est en train de vivre un temps, selon vous, Enki Bilal, qui a nul autre pareil. Cette technologie, est-ce qu'elle est aussi, à vos yeux, en train d'amoindrir le dessin ?
Je pense que oui, là aussi c'est une période, donc ça va pas durer, mais c'est écoutez, hier j'ai vu une amie qui est une artiste peintre et qui participe, qui est jurée au concours des Beaux-Arts. Bon, on a un peu parlé. Effectivement, ça se sent dans le travail des nouvelles générations. L'omniprésence de la référence photographique via précisément le téléphone portable, les photos qu'on peut en faire. Donc il y a une là aussi la temporalité est à l'accélération, donc on veut dessiner vite, on veut produire des images vite, donc je sais pas, c'est ça un peu ça la question, hein, on brûle les étapes.
C'est ça, d'autant que vous brûle les étapes, donc ce passage par le trait, Enki Bilal, par le crayon que vous n'avez pas délaissé jusqu'ici. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez moins à l'aise avec l'outil numérique ? Ou est-ce que vous êtes encore aujourd'hui convaincu que le trait, le crayon, aide à libérer l'imagination ?
Je suis convaincu de ça. Je ne dis pas que le numérique ne peut pas. Il y a des artistes qui vont s'exprimer, qui vont inventer de nouvelles formes d'art, j'en suis convaincu, qui seront vraisemblablement passionnantes, et j'attends ça avec impatience. Mais le travail graphique... de la main, il y a un mystère entre le cerveau et la main, il y a quelque chose qui se passe dans ce chemin qui est, et puis il y a une sensualité sur le papier. Alors moi j'utilise le numérique pour monter mes histoires, donc faire un montage de mes images, mais le travail graphique de pur dessin reste essentiel.
Le premier volet de la trilogie Nicopol, la vôtre, Enki Bilal, sort au début des années 80. C'est une époque particulière pour la bande dessinée. C'est en tout cas ce que dit le scénariste et écrivain britannique Alan Moore, auteur notamment de Watchmen et de V pour Vendetta.
Dans les années 80, ce que je faisais, c'était de pénétrer un monde où, disons, à part la France, la BD n'était pas respectée de quelque manière que ce soit. Et pourtant, il me semblait qu'il y avait des possibilités dans la BD qui n'avaient jamais été explorées, qui fourniraient une façon d'articuler les réalités modernes d'une manière que la littérature et le cinéma avaient échoué à faire. Watchmen était un outil pour ces idées-là. Et ça m'a permis de mettre en avant toutes les capacités de la BD, les niveaux de narration, les niveaux de sens. C'était ce que j'avais l'intention de faire.
Aujourd'hui, quel monde cherchez-vous à pénétrer avec la bande dessinée Enki Bilal ? Les questions presque corollaires. Si la science-fiction n'existe plus, quel futur pour la fiction ?
La fiction elle-même, elle se nourrit de science. Alors, bon, les deux termes sont de nouveau associés. Fiction scientifique, non ? Fiction réelle, prospective, fiction prospective. Je pense que réellement la narration qui est liée au réel d'aujourd'hui est un moyen de s'engager littéralement. Quelle est la place ? C'est la place, c'est de regarder devant, c'est de voir devant. L'intelligence artificielle est en route. C'est quelque chose qui est en train de se fabriquer. Le transhumanisme, c'est quelque chose qui est dans la tête de beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent lancer des travaux qui peuvent être terrifiants. Donc on est dans quelque chose de très mouvant et en même temps de parfaitement dirigé vers une fuite en avant. Alors donc cette fuite en avant, c'est pour l'imaginaire, c'est un terrain de jeu formidable. Et c'est ce que je fais d'une certaine façon avec Bug. Je considère que dans Bug sont inclus toutes les thématiques de notre monde. Tout est là. Je veux dire qu'à partir du moment où quelque chose disparaît et qui nous a soumis, on est obligé de tout réinventer. Et à partir de ce moment-là, tout le champ de la création, de la narration est ouvert.
Le terrain de jeu formidable de cet imaginaire, c'est devant, dites-vous, Enki Bilal. Est-ce que c'est aussi ailleurs? Là, Hobbes revient d'une expédition sur Mars. Il est d'ailleurs le seul rescapé. On a récemment vu la première photo d'un trou noir qui a été publiée. D'ailleurs, l'informaticienne qui est à l'origine de cet algorithme qui a produit la première image du trou noir, Katie Bowman, est victime en ce moment d'une campagne de harcèlement en ligne. Alors, comme dans Bug, les femmes prennent aussi le devant. C'est intéressant de voir aussi qu'elles sont les vieux réflexes qui peuvent remonter aussi dans le monde des scientifiques. Cette première image, vous, elle vous fascine, voir cette ombre entourée de ce halo de lumière?
Bien sûr. Alors on imagine à peine les distances que ça comporte. Mais voilà, vous le dites vous-même, cette image, cette photo, en fin de compte, c'est le coup de grâce à la science-fiction. Puisque finalement, on a la chose la plus incroyable. Alors, c'est pas le Big Bang, c'est pas l'origine de l'univers, mais c'est quelque chose de terriblement puissant, lointain, qui nous emmène dans des univers qui dépassent notre entendement. Et donc c'est là, on le voit. Le simple fait qu'on le voit, c'est que ça existe et qu'on y a accès, au moins déjà par le document visuel que les scientifiques ont réussi à produire. Donc voilà, ça veut dire qu'on est vraiment, on est dans le futur, voilà. Et ça c'est le terrain de jeu vaste, hein, bien sûr. Mais quand vous dites ailleurs, c'est pour moi c'est pas vraiment ailleurs. Ça c'est vraisemblablement ailleurs, mais Mars c'est pas ailleurs. Mars c'est notre banlieue, c'est notre Elon Musk considère ça comme une possible et plausible solution de remplacement à la planète Terre. Je pense que c'est excessif, c'est pas comme ça que ça va marcher, mais en tout cas ils y sont sérieusement, et la NASA aussi finalement peut-être agacée par l'impertinence de ce chercheur, de ce un peu fou sur les bords sans doute, mais c'est bien, envisage aussi d'aller sur Mars.
2041, Le Monde Today, édition orthographiquement pure, by les correcteurs associés. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cette bande dessinée.
Bah, il faut, heureusement.
Vous montrez cet appel, l'appel de la Silicon Valley. Hobbes vient, nous seuls pouvons comprendre. Après la panique, après l'abattement, les pontes de la Silicon Valley tentent de reprendre la main. Hobbes, l'avenir du monde est entre tes mains, viens chez nous, nous seuls pouvons comprendre. C'est par ces mots que Hal Brender, Joyce Whale, Mark Zuckerberg, tiens, il sera encore là en 2041, Ella Protocol et Arief Zulfikar, ainsi que le prétendument toujours en vie mais invisible Ray Kurzweil, tentent d'établir le contact avec l'introuvable Cameron Hobbes. Les mauvais génies, ou les bons, de la Silicon Valley, c'est vraiment eux, les maîtres du monde.
J'en cite deux, là, qui existent réellement, donc effectivement Zuckerberg, et puis Raymond Kurzweil, qui est vraiment le ponte du transhumanisme. Et lui, il veut vraiment devenir immortel.
Ils ont déjà beaucoup de pouvoir aujourd'hui, ils en auront encore
énormément,
plus demain.
Ouais.
Merci beaucoup à vous, Enki Bilal. Je crois que vous êtes plus sérieux que moi, vous avez le regard dans la pendule, vous savez quand il faut s'arrêter.
Ah non, j'ai pas.
Mieux
non,
que moi,
je,
non,
si non. J'avais l'impression de voir le trou noir.
En tout cas, vous avez raison.
C'est un côté trou noir, là.
Il y a un côté trou noir, ouais. Il est l'heure de se dire au revoir. Merci.
Merci.
Bug, livre 2, vient de paraître chez Casterman.